Tiens, normalement, il y a le coin-coin de Radio Libertaire. Enfin, pardonnez-moi, non pas le coin-coin, mais l'indicatif de Radio Libertaire à l'orgue de Barbarie. Je me demande si c'était pas l'orgue de Claude Reboul qui avait été enregistré en 1981 par Julien lors de la création de la radio. Il s'était dit, merde, il faudrait qu'on ait quelque chose. Il était allé chercher un temps des cerises. Allez, Radio Libertaire 89,4 MHz, dessous de scène magazine de créatures radiophoniques. Je sais pas si vous avez remarqué. Notre président de la République a déclaré qu'il aimait Depardieu. Notre président de la République a déclaré aussi, il y a quelque temps de ça, qu'il aimait la bagnole. Alors qu'on a l'impression, finalement, avec ce qu'il nous a fait voter récemment, qu'il préférait la marine. Mais je ne sais pas si vous avez vu aussi cet enchaînement, la Légion d'honneur de Depardieu qui nous permet d'oublier la loi sur l'immigration. La loi sur l'immigration qui nous permet d'oublier le Proche-Orient. Le Proche-Orient qui nous permet d'oublier la guerre en Ukraine qui nous permet d'oublier la réforme des retraites, bref, on oublie. Eh ben, quelques petits, je me souviens, histoire d'ouvrir un peu comme à l'accoutumée, ce magazine comme tous les samedis. Je me souviens que Clémence comptait qu'une récréation durait 1200 secondes, 1200 qu'elle égrenait posément dans sa tête, entre ses deux bras, entre les deux bancs de pierre, devant le préfabriqué des CM1. 1200 secondes le matin, 1200 secondes l'après-midi, et le midi, elle ne comptait pas, elle attendait. C'est tout. Je me souviens de la tourniquette à faire la vinaigrette, du ratatine ordure et du coupe-friture et du pistolet à gaufres. Je me souviens que le père d'Anne-Laure était très fier d'avoir dans son jardin un coin de 2 mètres carrés sur lequel poussait du muguet. Bon, même si finalement, le muguet ne fleurissait qu'à la mi-mai. Je me souviens du décès de Macomé, tué d'une balle perdue, à bout touchant appuyé, au commissariat des Grandes Carrières dans le 18e arrondissement. C'est de là que Maurice Rachefus créa l'Observatoire des Libertés Publiques. Je me souviens d'avoir eu un livret A de la Caisse d'Épargne, celle de l'écureuil, au taux de 7,5%. Tiens, je me souviens de l'annonce du premier million de chômeurs. Je me souviens de la perte du triple A de la France, évaluée par une agence de cotation répondant quand même au nom de Standard & Poor's. Je me souviens du pied de porc à la Sainte-Scolase. Mais si, vous savez, le poulpe, créé par Jean-Bernard Puy, dont il était dit qu'il aurait 40 ans en l'an 2000. Eh, ça veut dire que maintenant, le poulpe, il aurait sa carte senior dans les transports en commun. Je me souviens que ce midi, un photon, venu de l'espace lointain, parti d'une étoile lointaine quand mon père était né, ayant traversé quelques millions de milliards de kilomètres, est venu frapper ma rétine, parfaitement côte à côte, avec d'autres photons, dont certains se sont peut-être perdus pour n'être vus de personne, pas même d'un chat ou d'une luciole. Je me souviens de tes poèmes et de la lumière dans tes yeux, je me souviens de tes « je t'aime » que tu balançais comme des vœux. Je me souviens du stand au bout de la place, au bout du marché de la place Foch, à droite. Il y avait étalé des lapins, dépiautés et écartelés, des volailles éviscérées et, à gauche, dans 3 cages, il y avait des lapins nains et des cochons d'Inde implorant le regard des enfants avec la pancarte. 10 francs la bête, 18 francs le couple. Je me souviens que pendant 3 jours, Seb et Nico étaient venus en cours avec des bras en écharpe, une jambe plâtrée et un hématome au front pour l'un et sur la joue pour l'autre, nous racontant un accident de moto digne de Rémi Julienne. Quand je les avais vannés, vous auriez pu y laisser un bras, ils m'avaient dit... Mais on aurait pu y passer. Oh, je m'étais excusé de les avoir chambrés. Mais 3 jours plus tard, ils étaient revenus frais comme des gardons, un gant, l'œil pétillant, et nous avaient demandé, alors, c'est bon? On peut faire partie du club théâtre? Je me souviens de Jean Auvillain, Auguste Bayarja, Albert Batillot, Théophile Glassman, Louis Paquin, Prosper Maillard, Henri Rogier, Maurice Basseville, Charles Bastien, quelques-uns des 94 000 noms du monument aux morts de la guerre de 14-18 le long du Père Lachaise. Non, en fait, c'est pas vrai. Je m'en souviens pas, j'ai juste chopé ces noms-là au hasard. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Si personne ne se souvient de ces gamins morts, il y a de si un siècle, qui s'en souviendra? Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Normalement, après ça, je balance une chanson, mais je me rends compte que je suis arrivé à la bourre, à la régie, donc j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Et de toute façon, dans le studio, eh bien... Oh, c'est pas mixte aujourd'hui, ces dames sont là. Si ? Vas-y, Evelyne, présente le sommaire.
Bon, ben bonjour à toutes et à tous. Non, on n'a pas fait exprès, il se trouve qu'on est... 1, 2, 3, 4 bonnes femmes.
4 mousquetaires.
Autour de la table. Et donc, les 4 bonnes femmes, on va les présenter. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc, on a le plaisir d'avoir pour invité Myriam Boyer.
Bonjour.
Qui donne un spectacle au Théâtre Poche Montparnasse, qui s'intitule Juste un souvenir. D'ailleurs, je pensais à l'édito de Nicolas, ça va bien avec « Je m'en souviens hein, », il y a un peu de ça. Hein.
Un petit peu beaucoup, même.
Un petit peu beaucoup. Hein. Et aussi, alors, Laurence Kleinberger, qui était écrivaine.
Oui, on peut dire, oui.
Hein,
ouais. Ça se fait maintenant.
Ça se fait, hein.
Oui.
Qu'est-ce qu'on dit autrice, ça, j'aime pas.
Oui, non, moi non plus, j'aime pas.
Écrivain, j'aime bien aussi.
C'est très bien écrivain.
Ou écrivain, ouais.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on devrait faire une loi en décrétant que tout ce qui est masculin, aujourd'hui c'est neutre, enfin, c'est
masculin, c'est et féminin,
masculin, ouais, féminin. Voilà, comme ça on n'a pas besoin de se casser la tête,
ouais, exactement.
Non mais c'est vrai, parce
oui, ça
que
devient
si
dingue,
chaque,
ça
si chaque, dingue. Chaque fois il faut appuyer sur le fait que c'est une femme, que ouais. C'est un homme qui a écrit,
on s'en fout.
En tant que présentatrice, je suis d'accord.
Alors, et Anne Delalleux, chroniqueuse de théâtre, oui. Et puis moi qui, de temps en temps, viens
chroniquer
ou recevoir quelques invités de théâtre ou de lettres, ou enfin, ça peut être très varié, hein. Très varié. Voilà. Okay. J'aime bien vos lunettes,
ah,
Laurence.
Merci.
Hein. Elles passent beaucoup. Hein.
Ouais. Bon, elles passent pas à la radio.
Oui, c'est dommage.
J'ai cru que ça allait être filmé, donc je les ai mises.
Oui, fluo, vert fluo. C'est
oui, mais parce
voilà,
que
sont vert fluo.
Parce qu'ils trichent. Moi, j'ai vu les radios nationales.
Oui,
enfin,
oui.
C'est l'abchi, pas quoi. Ils trichent.
Filmé,
maintenant, ils les filment.
Mais oui, c'est plus.
Alors, il y a plus de mystère.
Radio.
Ah
ben non. Hein, c'est plus de la radio, ça s'appelle de la télé.
Oui,
ça
exactement.
Voilà, alors que ce qui fait la magie de la radio, c'est justement d'imaginer, de rêver, et puis aussi de temps en temps faire un coup de balai pendant qu'on écoute.
On écoute, on peut la radio venir comme on veut.
Voilà, exactement. Bon. Alors, je voulais dire aussi à Nicolas, je lui ai passé 2 extraits du spectacle de Pascal Amoyel, vers la fin de l'émission. Enfin, on les passera parce qu'on a un attaché de presse qui a beaucoup d'admiration pour Pascal Amoyel, parce qu'il fait un beau spectacle. Il raconte la vie de Georges Siffra.
Oui.
Vous connaissez,
oui, oui.
Et
grand, oui.
Il raconte avec naturellement au piano en jouant des airs de Liszt, de Chopin, de je sais plus Schubert ou Schumann. Oui. Enfin, ça doit être assez
assez beau.
Beau.
Il avait fait un spectacle sur Liszt il y a quelques années. Tu te souviens?
Oui, je me souviens.
On avait été voir.
Et puis il y aura aussi. Un texte de Jean-Marie Blanche, il lit, alors ça va bien aussi avec votre thème, juste un souvenir, il va lire un texte de comment il s'appelle, Jean-Marie Cossimon, non c'est pas Jean-Marie,
Jean-Roger Cossimon,
tiré de Les Vieux Chagrins, quoi. Et puis je sais plus, Jean-Marie il a donné un titre, La Larme à l'œil, alors je sais pas si c'est de Cossimon, La Larme à l'œil, mais en tout cas c'est Les Vieux Chagrins, voilà. Bon, alors, on a fini de faire le programme. Et donc, alors, Laurence, elle vient pour un livre, un genre de témoignage, fiction,
voilà,
romancé.
Entre le roman, ouais,
voilà.
Et puis, en y repensant, quand vous m'avez invité, on se tutoie. Hein.
Oui, on peut, oui.
Bon,
oui,
non,
oui.
Tu m'as tutoyé tout à l'heure, donc
bon.
Non. On se tutoie, on se vous voit à l'antenne, parce qu'il y a des règles, je ne sais pas.
Moi, je n'ai aucune règle.
Bon, alors, voilà. Donc, quand tu m'as invité à l'émission,
oui.
J'ai vu que c'était une émission sur le théâtre, et je me suis dit que finalement, ça a quelque chose de théâtral aussi. Voilà.
D'accord.
Unité de lieu pratiquement. Bon, ça pourrait être une pièce de théâtre, mais c'est
Bah, il faudra demander à Myriam. Hein,
ouais, Myriam. D'ailleurs, je lui ai apporté.
Ah bon ?
J'aime beaucoup Myriam Boyer, et voilà.
Merci. Je prends.
Ouais. Bah oui. Voilà. Et c'est une histoire, c'est autobiographique d'un moment de ma vie et de la vie de ma mère, à un moment précis où elle avait la maladie d'Alzheimer, etc. Voilà.
Alors là, on va commencer avec Myriam, oui, parce que Myriam, elle joue ce soir.
Oui.
Ah. Voilà. Et donc, bon, je sais que quand on joue, on se prépare un petit peu en avance quand même.
Oui, hein. Très en avance, c'est vrai.
Très en avance.
Oui. Voilà. En tous les cas, ce qui me concerne.
Oui,
j'ai
oui.
Un
oui.
peu comme ça, je suis dans l'angoisse dès le matin. Et ça va très bien une fois que j'ai joué, là. Alors là, je pourrais passer la nuit. Oui. Mais dès que la nuit est passée, il faut recommencer.
Oui, 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 parce que. Alors, on a vu le spectacle hier soir, Anne et moi.
Oui, oui, oui.
Et.
Un beau moment de poésie.
Oui, oui. Et puis. Comment dire, c'est très intense. D'emblée, on est dans une atmosphère. Je ne sais pas. Et c'est très personnel aussi.
Ah oui, complètement. Mais je le reconnais. Je le reconnais. C'est parti de quelque chose de très personnel. J'ai l'impression que c'est les fondations de ma vie de comédienne. C'est des chanteuses qui m'ont bouleversée quand j'étais petite. Et j'ai toujours eu envie de faire entendre ces textes. C'est en moi. C'est dans ma construction de comédienne, oui. De femme, de, voilà.
Ce sont des chanteuses. Alors, il y a Cora Vauquer qui chantait.
Voilà. Il y a Cora Vauquer, il y a Damia, il y a Fréhel, il y a Patachou
aussi, oui,
oui, et puis en homme, il y a Mouloudji. C'est un côté, c'est sûr que c'était une époque rive gauche de Paris. Hein. Et puis, avec une petite, j'étais une petite fille de Lyon, et il me faisait rêver à Paris quand j'entendais tous ces textes de Paris. Et donc, j'ai sorti tout ce que j'avais en moi, et ça, c'est vrai que c'est un petit bonheur tous les soirs.
Oui, 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 je comprends. Et donc, alors, c'est vrai que quand on connaît les chanteuses ou les chanteurs, on ne sait pas toujours qui a écrit la chanson.
C'est ça qui est intéressant.
Oui, oui, oui. Alors, parce que ce que on voit, la liste des chansons dites sur scène, alors, vous ne chantez pas.
Non.
Mais dites sur scène, en fait, c'est en fait, vous...
Je les interprète, en fait. Mais en comédienne.
En comédienne.
Voilà.
Oui. Mais là, on ne dit pas qui a interprété. Sur la liste.
Voilà. Il y a les auteurs, c'est vrai.
Non, on ne dit pas qui les a interprétés.
Absolument.
Or, en fait, vous êtes inspiré par celles ou ceux qui ont interprété ces chansons.
C'est vrai.
Mais on ne le dit pas trop. Hein.
Non, parce qu'il fallait un petit peu faire un choix. Oui. C'est-à-dire que comme ce sont les textes qui sortent, et puis qu'elles ne sont pas chantées, donc je pense que c'est... Il vaut mieux être vierge quelque part, et puis les écouter, c'est tout.
Oui, entendre les textes. Ce qui est très surprenant, parce que, en fait, vous vous emparez de ces textes.
Oui.
Ce qui est très surprenant, c'est que, en fin de compte, on... Il m'est arrivé de reconnaître des textes,
bien sûr.
Mais en fin de compte, vous avez fait en sorte que les textes se suivent,
oui.
Et à la limite, on ne sait pas qui précède qui a écrit ce texte. C'est lié, c'est vous qui l'avez lié.
J'avais envie d'un spectacle d'émotion et de recevoir, et donc c'est gênant. Si on commence à se dire ah mais c'est qui a fait ça, et puis c'était ah oui la musique, non, tout d'un coup les textes les uns derrière les autres donnent un monologue et un trajet d'une bonne femme, et je trouve ça drôlement intéressant parce que c'est ce qui s'est créé tout seul. Voilà, je dirais qu'à partir de quelque chose de chanson, d'ailleurs le metteur en scène a dit, elle est venue avec un bouquet de chansons, je trouve ça très joli, et le bouquet de chansons, ça donne un monologue et puis un trajet
c'est
intéressant.
Oui, exactement. Ce sont des chansons qui ont fusionné à travers vous.
Voilà, ouais, ah, ouais. Et mon interprétation fait quelque chose de complètement, qui unifie tous
oui,
ces textes-là.
Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Donc ça devient... On pourrait dire une seule en scène,
absolument.
Un monologue.
Oui.
Et c'est ça, c'est
oui.
ça garde, ça a quand même une aura.
Ce qui est génial, c'est que ça s'est fait tout seul. Voilà, bon oui. On s'est pas, dit, tiens, ça va faire, ça va donner. Non, c'est en les donnant, en les disant, que petit à petit, il y a quelque chose qui s'est créé. Vraiment, c'est, vous savez, il y a des spectacles qui ont la grâce, et moi, je trouve que c'est un peu ça. C'est quelque chose que vous allez chercher dans votre tête comme ça, d'avoir envie de faire, sans savoir où, comment. Et puis, puis il y a un spectacle qui se crée. Et ça, c'est absolument...
Oui, c'est, oui, ouais, puis c'est moi, j'apprécie la mise en scène parce qu'elle est, très, très sobre. Hein. Elle
ah,
est
oui,
très,
oui, ah oui.
Oui, oui.
Non, c'est vraiment au service de la comédienne.
Oui, au service de la comédienne.
Ouais, vraiment. Oui, oui, oui. Ça fait du bien.
Oui, ça fait du bien, oui. Et puis, c'est assez... Moi, j'ai trouvé que c'était intense. Hein.
Oui, oui. Puis ah, c'est un beau départ en voyage, parce que vous partez, vous arrivez en avec votre valise.
Oui.
Oui, c'est un beau départ en voyage. Donc, voilà. Vous nous emmenez.
Je vous embarque avec moi.
Voilà, exactement.
Et en plus, de comme ça, y a, vous avez connu cette chanson. Vous avez oui. Qu'elle a, on a des petits moments comme ça qu'on prend et qui vous sont personnels, évidemment. Bien parce sûr. Que ça raconte des moments qui vous sont personnels à vous. Oui. Et alors que moi, ben, évidemment, c'est tout le trajet.
Oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'histoires d'amour là-dedans.
Ah ben, ils chantaient que ça. Ils oui, faisaient. C'est incroyable. D'ailleurs, ils ont tous écrit. Quand on regarde, c'est Cocteau, c'est Boris Vian, c'est Trenet. C'est que de l'amour. Et puis avec les ruptures, avec je t'aime oui, plus. Mais avec le goût des mots, le oui. Goût des mots.
Il y a certains moments où on a presque l'impression que vous avez envie de chanter. Il me semble. Ça t'est arrivé.
De toute façon, c'est une manière de chanter, hein, oui. D'interpréter comme ça. C'est une. En plus, ce sont des chanteuses qui étaient, ce qu'on disait, les chanteuses réalistes. Oui. Donc elles y allaient dans. Et moi, je me suis pas fait, je me suis pas dit non, on va prendre du recul. Non, non, j'y vais à fond. Je les interprète à fond.
Oui, oui, oui. C'est un peu parce que vous racontez, je sais plus, c'est oui, que quand vous dans la présentation du spectacle, vous racontez un souvenir, c'est que quand vous étiez enfant, votre père vous emmenait dans les bistrots
à la Mulatière,
voilà,
à Berlioz,
et que vous dansiez sur les tables.
Je chantais. Il me mettait sur les tables, mais c'est comme je dis, c'est pas pour faire la manche. C'était il était très fier que je connaisse les chansons que j'entendais à la radio. Alors il me mettait sur la table et des bistrots, et puis pendant qu'il se prenait des petits ricards, à chaque fois on me donnait une grenadine et je dis je peux plus supporter. j'en ai eu des grenadines et je chantais les chansons que j'entendais à la radio. Et il était très, très fier. Et c'est vrai que je faisais pleurer les gens qui étaient là, les clodos.
Mais vous avez quel âge?
Oh, j'avais 5 ans, 6 ans.
5 ans?
Ouais, j'étais toute petite.
Oh là là.
Ouais, ouais, jusqu'à 10 ans. C'était.
Donc en fait. Vous avez fait de la scène très, très...
Oui, mais je ne me rendais pas compte que... C'est marrant parce que c'est quand j'ai fait, puisque ce n'était pas un milieu du tout, on parlait, il n'imaginait même pas que je pouvais un jour chanter ou jouer, il ne pensait pas. Et justement, c'est des milieux où ça n'existe pas. Et c'est ce qui est formidable, c'est de vous retrouver après dans ce milieu et faire ce que je fais. C'est pour ça que je dis que c'est mes fondations, oui. Parce que je ne le savais pas. Je ne le savais pas, c'était tout ce qui était en dessous. Et le jour où j'ai fait ce métier, il y a tout. Et maintenant, en plus, que j'ai, après 50 ans de métier, il y a tout qui remonte comme ça. Et je me dis qu'en fait, je me suis construite par rapport à tout ça. Quoi. Je crois qu'on est très, très peu dans ce métier à venir des milieux comme celui-là. C'est pas prolétaire, hein, c'est en dessous. Hein.
Oui.
C'est carrément, on appelle ça...
Comme Charlie Chaplin.
Alors comme c'était d'autres époques,
oui,
évidemment, oui. J'ai pas connu l'époque des.
Charlie Chaplin, il venait aussi de.
Voilà, mais on est très très peu, finalement. C'est
Edith Piaf.
Ah ben voilà. Et nous, Edith Piaf, quand j'étais petite, c'était plus qu'une chanteuse. Elle nous aidait. Elle partageait avec nous dans notre tête.
Ouais.
Ouais. Et d'ailleurs, il faut jamais toucher pour moi à toutes ces chanteuses parce que je me rappelle de la Berthe, ma mère. Il y avait un côté. Je suis comme elle. Je regrette rien. Voilà. Il y avait plein de choses comme ça qui étaient vécues par les gens. Et les artistes étaient vécu par les gens. Et ça, c'est pour ça que j'aime interpréter ce genre de texte et je le redonne, voilà.
Oui, oui. Mais vous les rejoignez.
Voilà, voilà, exactement, exactement. Et
Piaf, c'est toujours, c'est intemporel parce que c'est souvent repris, même ou par des jeunes ou à l'étranger aussi.
Mais alors, je supporte pas.
Ah oui.
Ouais. Oui, et alors moi je me dis c'est terrible parce que vous vous rendez compte, je le chante même pas. Alors ça doit être encore pire pour ceux qui les aiment. Peut-être que c'est encore pire. Il y a quelque chose comme ça où elle est à vous, elle vous appartient. Mm-hmm. Elle vous appartient, oui. Avec sa voix, avec son vécu, avec personne peut le faire.
Non, c'est pas facile. C'est vrai.
C'est incroyable, hein. C'est incroyable, cette espèce de possession tout. Qu'on a.
Mais c'est normal, Moi, je comprends ça. Quand on aime quelque chose, bon, bah.
Ah, il est à vous, et personne ne peut l'aimer comme vous. C'est pas possible.
Alors, ici, il y a une tradition. Peut-être que tout à l'heure, si vous le voulez bien, vous pourriez nous dire un des textes. Alors, vous n'allez peut-être pas supporter si Nicolas passe un texte chanté aussi. Vous n'allez pas le supporter.
Ah si, au contraire. Oh, ben non, là, on est là pour ça. Oh, au contraire, on va dire... Non, je ne suis pas ici devant, en train de faire mon spectacle. On est en train de parler justement de d'où ça vient. Alors, c'est au contraire. Oui, ça me fait plaisir. Ben
justement, on va...
Lequel?
Ah, ben justement, je vous laisse chouette. Le choix. Hein, parce que
ah ben non,
c'est vous l'invité. Oui, mais...
C'est vous la chef.
Il choisira et vous allez choisir.
Voilà. Alors je choisis, alors.
Oui.
Alors le mal de Paris de Mouloudji.
C'est bon. C'est bon. On va l'écouter.
C'est bon. Allez, c'est parti.
De Paris, de ses rues, de ses boulevards, de son air triste et gris, de ses jours et de ses soirs. Et l'odeur du métro me revient aussitôt que je quitte mon Paris pour des pays moins gris. J'ai le mal de la Seine qui écoute mes peines, et je regrette tant les quais doux aux amants. J'aime me promener dans tous les beaux quartiers, voir au Palais Royal les filles à marier, traîner à Montparnasse de café en café, et monter à Belleville, tout en haut de la ville, pour la voir en entier. J'ai le mal du pays quand je suis loin de Paris. Me prend le vague à l'âme, j'ai le cœur qui s'ennuie. Je rêve à cette dame dont les toits épanouis autour de Notre-Dame font des vagues infinies. J'ai le mal de la nuit, de la nuit de Paris. Quand les filles vont et viennent à l'heure où moi je traîne, j'ai le mal des saisons qui poussent leurs voitures dans les rues de Paris et changent sa parure. Le printemps vaguement, les arbres sont contents, puis l'été se promène, c'est dimanche toute la semaine. Les feuilles tombent blêmes. J'ai le mal de Paris durant les jours d'hiver, ses gris et ses déserts pleins de mélancolie. Oui, j'ai le mal d'amour et je l'aurai toujours. C'est drôle, mais c'est ainsi. J'ai le mal de Paris.
je suis en train de relire toute la liste parce que c'est
mais elle n'était pas en entier hein, dans mon spectacle. Hein.
Ah voilà, c'est ça.
Je ne l'ai fait pas en entier, non, non.
Non, vous faites un choix.
Voilà.
Et ça, c'est suivant votre humeur, quelque part.
Ça a été fait par le metteur en scène, par rapport à mes propositions, voilà. Pour donner quelque chose.
Il y en a que j'avais bien aimé la chose, là.
C'est pas ta chose, ça.
Ah oui.
C'est pas ta chose, c'est génial. Les ratés de la bagatelle.
Ah oui.
C'est formidable, ça.
Vous avez pas envie de la dire?
Ah bah si, ce serait... de la dire?
Oui. Oui. C'est pas l'ambiance hein, de la scène. Hein.
Alors, on essaye. Hein,
oui, on essaye. Bon, oui.
On essaye, alors. Oui. On essaye. Il y a ceux qui font la chose en regardant le plafond ou en comptant les mouches qui sont sur le guéridon. Il y a ceux qui font la chose en pensant à l'argent et ceux qui pensent à rien parce que c'est fatigant. Il y a ceux qui font la chose en se demandant pourquoi. Et ceux qui font la chose comme s'ils étaient en bois. Il y a ceux qui, pendant la chose, se mettent à bégayer et qui s'étonnent après d'avoir des quintuplés. Il y a ceux qui font la chose en chantant une chanson, en battant la mesure, en tapant du talon. Il y a ceux qui font la chose toujours un peu distant parce que c'est le seul moyen pour avoir des enfants. Il y a ceux qui, pendant la chose, poussent des cris violents pour que les voisins croient qu'ils passent un bon moment. Et à ceux qui font la chose pour battre des records, tous ceux dont les appâts ne sont qu'un livre d'or. Et à ceux qui font la chose sans passion ni désir, parce que c'est le seul truc qui fasse vraiment maigrir. Et à ceux qui font la chose avec des accessoires, qui ont besoin de trompettes ou bien d'une balançoire. Et à ceux qui font la chose. Il y a ceux qui, lorsque la chose est déjà terminée, se demandent si la chose va bientôt commencer. Il y a ceux qui font la chose pas pour les sensations, une seule fois dans l'année pour les allocations.
Bon, d'accord.
Voilà, ils ont l'œil triste, le cou tendu, les ratés de la bagatelle. Ils font la chose en par-dessus, les ratés du fruit défendu. Car tous ceux à qui la chose fait du bien n'aiment pas ceux à qui la... Car tous ceux à qui la chose ne fait rien n'aiment pas ceux à qui la chose fait du bien.
Voilà. Ah, voilà.
Pas d'achou.
Ouais, bravo.
Je l'ai dit.
Ouais. C'était Pachatchou qui la chantait. Et c'était écrit par...
Je crois que c'est la famille.
De Pachatchou?
Oui, je crois. J'avais
c'est regardé. Martial Carré, la chose, les ratés de la bagatelle.
Je crois que c'est... voilà.
Ah oui, c'est vraiment drôle. Hein.
Ah, c'est non, mais c'est...
ah oui, et puis il y en a qu'on découvre. Là, je ne savais pas que Jean Cocteau s'est amusé avec la Dame de Monte Carlo.
C'est beau ça. Alors il paraît que c'est un opéra.
Oui, c'est un opéra.
Ouais. C'est très 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 beau. Très beau, c'est vraiment. Et Boris Vian avec le piano. J'ai rêvé d'un piano, c'est magnifique. On n'imagine pas Boris Vian écrivant ça. On n'imagine pas. C'est formidable. Il y a vraiment plein de choses que
j'adore. Ah oui, tout
à fait. Ouais.
Mais il y a plein de choses,
ouais.
Mais en même temps, vous donnez entièrement un petit peu à l'esprit de quête d'amour, d'expression, ouais. Il y a l'histoire des amants là, hein. Où sont tous mes amants là, c'est très.
Ah ben c'est notre grande fréelle ça.
Oui.
Et la coco, elle est gonflée, c'est les années 30. C'était aussi, hein, c'est incroyable, Fréhel. Ouais. Quand elle dit, je prends de la coco avec mes copines, je me morphine. C'est incroyable, c'est les années 30.
Ah,
et,
oui.
Ouais, non, je trouve ça. Il y a une force dans ces textes, une quelque chose. Et justement, comme vous avez pas les valses, les javas, voyez, ça situe pas. Du coup, quand on donne le texte, on n'entend que le texte. Ça ne situe pas, et du coup, on n'est pas embarqué dans cette espèce moi, j'adore. Hein, les mélodies de toutes ces chansons, mais les textes sont tellement forts que c'est formidable de les faire entendre.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Je me prends un grand pied, comme on dit.
Oui, et puis, ce qui est pas mal, c'est qu'on a l'impression que. Tous ces auteurs, ces femmes auteurs, se tiennent la main. Ils sont soudés dans le spectacle. Enfin, ils sont vraiment réunis. Et il n'y a pas de coupure. Par exemple, on ne dit pas...
On ne se dit pas, elle a fini la
Jeanne
chanson.
Bosse dans la fumée. Voilà. Non, vous laissez passer tous les textes. Ouais. Et ils se suivent. Il y a juste quelques apparitions de...
Alors, il y a des petites, il y a des petits textes du metteur en scène pour les lier,
oui. Hein,
mais qui sont vraiment très, très peu et très... Et puis, il y a mon mari qui apparaît.
Philippe Vincent,
voilà,
oui.
Voilà, Philippe Vincent, qui donne l'idée de l'homme, justement, de l'époque.
Un peu hautain, hein, légèrement. C'est le rôle, hein,
le gilot, quoi.
Oui, c'est le rôle.
C'est-à-dire que, quand vous parlez de mon enfance, j'ai été... vraiment là-dedans, bercé avec des jumeaux qui aidaient l'homme de mon enfance, c'était mon père avec son chapeau, son voilà, c'est
un peu
c'est les mecs
la jouaient quoi,
les voyous de bas étage quoi, mais
il a la classe quand même votre mari, hein, il fait pas bas étage, il a la classe.
Non mais quand on arrivait dans un bistrot, on disait Monsieur Boyer, hein.
Ah oui,
les macros, attention, ils
était pas macro quand même votre... si,
ben, si.
Ah, oui. Ah zut alors bon, ben, mais voilà. Oui mais il y a pas de mal, hein.
Non, mais c'est pour ça qu'il faut toujours remettre dans l'époque, oui. Parce que de l'époque c'était presque bien, je veux dire, ma mère qui s'est fait taper sur la gueule pendant 16 ans, oui. Eh bien elle disait mais j'aurais pas aimé un mec mou. Vous vous rendez compte, je veux dire, c'est dingue. Ce qu'il faut se dire, c'est que on a avancé et qu'on continue d'avancer, et tant mieux. Mm-hmm. Mais il faut toujours remettre, parce que
il y a le contexte,
mais tout le temps. Oui. Le droit de cuissage, heureusement.
Quand on écoute la maman de Saint-Jean, c'est une femme battue aussi.
Et ben voilà. Et il faut remettre dans le contexte. Je dis pas que c'est bien, attention. Je dis pas que c'est bien, mais je dis que il faut remettre dans le contexte. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des espèces de jugements, de valeurs, de un tel. Mais vous rendez compte aujourd'hui, alors Michel Simon, c'est une merde. Le père Brasseur, quand on sait comment il se conduisait quand il arrivait dans un théâtre, c'est pas bien de pas et nous, moi je sais, quand on a commencé, on regardait ça comme des dieux, quoi. Et c'est pas, je trouve qu'il faut vraiment faire attention. Par contre, pour nos gamins, pour mes petites filles, je suis ravie que ça bouge. Vraiment, je suis ravie. Je ne défends pas ça, je dis qu'il faut arrêter d'avoir des jugements sur... c'est affreux parce que nous, les 68 heures par rapport à des jeunes, alors on s'est pas fait chier, c'est formidable. Et puis maintenant, vous avez foutu le monde dans la merde. Non, parce que justement, on était avec des puritains à l'époque, et on a réagi par rapport à une société où on est en train de nous emmener. Alors, on sait que la vie, c'est un balancier. Mais quand même, je trouve qu'il faut bien remettre un peu les choses en place.
Ah, moi, je suis bien d'accord. Vous savez, quand on voit des films avec Gabin qui a la baffe facile, je me rappelle d'un film.
On va pas dire que Gabin est un monstre.
Mais non.
On a été élevé là-dedans.
Un monstre sacré, oui, mais pas un monstre.
On vit dans une drôle d'époque. Il faudra enlever toutes les cigarettes au bec qu'on voit dans les films.
Tout. Les cigarettes, la vie, tout d'un coup, il y a
un mot un peu plus haut que l'autre.
Et puis, attention, si vous défendez Depardieu, vous n'avez pas envie d'être vacciné, c'est pas parce que vous êtes anti-vaccin ou parce que vous trouvez que Depardieu, il agit très très... Non, on peut avoir, ça peut être quand même un peu dans de mettre un peu des petites choses, quoi. C'est pas tout blanc, tout noir. On a l'impression qu'il faut être comme ça, ou on est Poutine contre Poutine, ou on est ci, ou on est ça. Arrêtons, quoi.
Voilà, c'est ça.
Alors, j'en profite d'avoir... Mais c'est vrai que j'ai besoin de dire qu'il faut quand même un petit peu remettre les choses à leur place.
Bah oui, je comprends.
Voilà. Et je trouve qu'avec mon texte, curieusement, c'est très... Mais j'ai l'impression que je parle comme j'en ai envie. Je trouve la chanson de Chelon, on ira dans une autre planète un jour, si... voilà. Il y a plein de choses comme ça, je suis contente de dire avec les corbeaux, ça c'est Damia, c'est les années 30, hein, et je trouve que, attention, les corbeaux sont là, hein, il faut, voilà, alors, on est là en train de tout faire sauter, mais qui est-ce qui est là pour prendre les choses en main, voilà, je trouve que mine de rien, ce spectacle me permet de dire tout ce que j'ai sur la patate.
Ah, oui, on peut rappeler d'abord jusqu'à quand ça joue, parce que moi j'aimerais bien aller le voir et où.
Alors, c'est le Théâtre Poche Montparnasse, effectivement, je ne l'ai pas dit, j'allais le dire hein, quand même, hein, mais bon. Théâtre Poche Montparnasse, du
21h, sauf le lundi mardi, sauf le dimanche lundi. Voilà. Voilà, tous les jours, sauf dimanche lundi à 21h jusqu'au 14 janvier.
D'accord. Voilà, et il y a deux séances exceptionnelles, le 31 et le...
Non, maintenant, je fais les dimanches à partir du 31. D'accord. Donc le 31, le 7 et le 14.
D'accord. À 17h.
À 17h le dimanche, oui, en effet.
Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Ah non, mais ça vaut, il faut, faut y aller.
Ah oui, parce que tout le monde m'aime bien, mais il n'y a personne. Hein.
C'est vrai.
Non, mais depuis toujours. Non, mais depuis toujours, tout le monde m'adore. On me dit, ah là là, je vous adore. Et je ne sais pas pourquoi, je suis loin de remplir les salles.
Mais je crois qu'il y a beaucoup d'artistes dans ce cas-là qui sont vraiment adorés. Et des artistes, des auteurs. Je vous adore, je vous adore.
Mais quand j'avais 20 ans, je le disais, hein. J'aimerais mieux qu'on dise elle est à chier et que j'ai 10 scénars sur mon bureau.
Et ben non.
Et ben non, on dit elle est formidable et je me dis bon bah oui d'accord mais
où êtes-vous?
Non mais c'est pas ça, il faudrait faire des manifestations pour la poésie. Non mais c'est vrai quoi, il faudrait faire des manifs pour
Myriam Boyer
poésie,
carrément
pour la poésie, la chanson, pour les textes, il va falloir manifester hein, c'est pas possible. Non mais je crois hein, franchement.
Je vais faire de la pub.
Non mais c'est parce que les gens ils aiment pas trop la poésie. Enfin c'est pas qu'ils aiment pas trop la poésie mais ils sont pas peut-être qu'on leur donne on leur donne pas assez l'envie d'aller
Non mais enfin il faut quand même reconnaître que on va vers la connerie hein. Oui. Donc c'est dans tout hein. On est tiré en bas. Si vous avez pas envie d'en faire, il faut pas s'étonner non plus que c'est pas là qu'on trouve le maximum évidemment de spectateurs hein. Si je faisais mon cul sur la commode, ça irait beaucoup mieux mais bon, j'ai pas envie.
Bah oui, c'est oui, oui, problème, c'est vrai. Oui. Bon, il y a quand même des gens qui écoutent Radio Libertaire, ils vous auront entendu quand même.
Ben, j'espère. Bonjour tout le monde.
Oh là là, on vous fera de la publicité quand même. Hein.
Merci.
On est anti-publicité, mais on fait quand même.
Oh ben, on en fait finalement.
on fait de la communication.
Voilà. Dès qu'on parle. Voilà. Et je suis ravie de m'avoir invitée ici.
Ah ben nous, on est ravis, hein, parce que quand même, moi je sais, c'est pas que je vous guette, mais je vous reconnais quand on... Même quand je regarde un film, même sans voir votre visage, j'entends votre voix.
Oui, et je sais que... le dit souvent.
Ouais.
C'est vrai.
Et puis, je sais pas, il y a quelque chose, je me souviens de vous avoir vu, alors vous étiez beaucoup plus jeune, dans Série Noire avec Alain Corneau. J'avais adoré ce film.
Magnifique, c'est un beau souvenir. Ouais.
Et puis je vous ai vu au théâtre quand même. Hein. Vous rappelez que vous êtes une comédienne de théâtre, pour Misery, pour Le Chat, pour...
Chère Elena aussi.
Chère Elena, et La vie devant soi d'Émile Ajar.
Ah oui.
Vous avez repris un rôle de Simone Signoret. D'ailleurs, pour Le Chat, c'est pareil, vous avez repris un rôle de Simone Signoret.
Oui, mais alors au théâtre. C'est ce qui est formidable. Au théâtre. Donc, du coup, il n'y a pas de comparaison.
Non.
Hein, parce que j'ai fait au théâtre ce qu'elle a fait au cinéma. C'est une femme que j'ai toujours, quand j'étais petite, quand j'ai que débuté dans ce métier, je me disais, j'aimerais faire des rôles comme ça quand je serai grande. Et ben voilà.
Mais c'était des beaux rôles quand même. Hein,
c'est magnifique. Mmh. Magnifique.
Hein, vous avez
tout ce que vous me dites. En général, j'ai bataillé pour que ça puisse exister. Mmh. On n'est pas venu en me disant, dis donc, t'aimerais pas Non. Et j'ai bataillé pour faire de la production, pour pouvoir les monter, quoi. Parce qu'autrement, ce ne serait pas là. Tout ce que vous me dites, là, il y a les trois quarts qui ne serait pas là.
Ah oui.
Alors, voilà. Mais en même temps, ça existe. Vous les avez vus. Ouais. Et c'est ma fierté.
Oui. Vous avez joué aussi les monologues du vagin aussi.
Ah oui. Alors, on m'avait fait venir là. C'était toutes les comédiennes y passaient là. Et c'était très chouette. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, très très chouette. Ouais.
De la télévision aussi un peu.
Ah ben depuis l'ORTF, moi, j'ai commencé à l'ORTF. Ah, l'époque, on était payé à la ligne. Alors pour vous dire que c'est pas hier. Donc et il y avait, c'était le couloir de la honte, on appelait. C'était au but de Chaumont et on faisait la queue. Il y avait pas de casting. On faisait la queue devant chaque bureau de metteur en scène et c'était l'assistant qui vous recevait. Et je peux vous dire que là, c'était pas rigolo, hein, parce que c'était. Alors là, c'est pour le coup, oulala, c'était dur hein, pour les femmes, hein, et revenir en mini-jupe, et non, c'était assez monstrueux, c'était vraiment, c'était dur. Mmh. C'est pour ça, et ça me fait rigoler, quoi, vraiment, franchement, aujourd'hui, c'est...
Mmh. Bah oui, c'est sûr, oui, on passe aux extrêmes, quoi.
Ouais, voilà.
C'était extrême à cette époque-là, et puis maintenant on va quand même presque vers le pas la plus bonnerie,
on y va tranquillement.
Au puritanisme.
Je me souviens de vous aussi dans un Maigret avec Bruno Crémer que j'aimais beaucoup.
Bien sûr.
La nuit du Carrefour.
La nuit du Carrefour. Hein. Ah oui.
Là, quand c'est bien dirigé, une bonne série.
C'était une très très bonne série, vraiment.
Les cinq dernières minutes. Très bien réalisé.
Alors, ça a été mon premier. Les cinq dernières minutes, je suis arrivée quand je suis arrivée à Paris, donc à 18 ans, et je suis dans le pré-générique. Alors j'avais dit à toute la famille à Lyon, je suis dans les cinq dernières minutes. Alors ils sont installés tous devant leur télé et le générique, c'était fini.
Ah bon ?
Mais qu'est-ce que j'étais fière et contente. C'était mon premier boulot, très fière. Et j'ai gagné en une nuit tout mon mois de travail quand j'étais dactylo. Je me suis dit, c'est pas mal.
Peut-être un bon plan.
Ouais, sauf que vous n'en avez pas tous les jours.
Mais voilà,
à cette époque-là. C'est sûr.
Ça devait être bien les cinq dernières minutes un petit peu.
Ouais, près. C'était très très chouette avec comment il s'appelait.
Raymond Souplex.
C'était avec Souplex.
Oui. Ouais. C'était quoi le truc qui disait bon sang, mais c'est bien sûr.
Voilà. C'est ça. Vous êtes comme Judith Magre aussi. Je l'ai vue dans les cinq dernières minutes souvent.
Ah bah oui.
Elle joue aussi au Théâtre Poche.
C'est merveilleux. Oui. Vous vous rendez compte? Moi, elle me fait du bien parce que je me dis j'ai encore 20 ans devant moi. Sur scène.
Je crois qu'elle a 97 ans. Hein.
C'est merveilleux. Ouais.
Elle lit des textes de Sylvain Tesson.
Oui, je suis allée voir.
Je ne sais pas, je trouve ça incroyable.
C'est incroyable. Et d'ailleurs, on la boit des yeux parce qu'on se dit, moi je vais être comme ça.
Eh oui.
Superbe.
Comme quoi, toutes les deux, vous avez fait les cinq dernières minutes. Moi, je me souviens de vous avoir.
Mais on a fait d'autres choses.
Ah oui,
pareil.
Pareil.
On a eu des carrières où il y a des endroits qui se retrouvent.
Eh oui. Alors, on va peut-être faire une petite pause musicale.
Oui.
On va choisir là-dedans.
Voilà, vous choisissez vous.
Qu'est-ce que vous voudriez,
J'aimerais bien ou Fréhel ou Damien, ce serait bien. Où sont tous mes amants? Fréhel. Oui. C'est bon.
Mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles, ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous, moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? La nuit qui revient, je reste seule, isolée, sans soutien, sans nulle entrave, mais sans amour, comme une épave, mon cœur est lourd, moi qui jadis ai connu le bonheur, les soirs de fête et les adorateurs, je suis esclave des souvenirs, et cela me fait souffrir. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant? Jadis, quand j'étais belle, adieu les infidèles. Ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? La nuit s'achève et quand vient le matin, la rose pleure avec tous mes chagrins. Tous ceux que j'aime, qui m'ont aimé, dans le jour blême sont effacés. Je vois passer du brouillard sur mes yeux. Tous ces pantins que je vois, ce sont eux. Luttant quand même, suprême et fort, je crois les étreindre encore. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant? Jadis, quand j'étais belle, adieu les infidèles. Ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? Amants, tous ceux qui m'aimaient tant, moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants?
Alors ça, c'est un texte qui avait été écrit par un monsieur qui s'appelait Charles Cachan, dit Charlie, et qui s'intitule « Où sont tous mes amants ?» Et on se dit, ça pourrait être traduit en féminin, « Où sont toutes mes amantes ?» Hein, pourquoi pas ? Je sais pas si un homme est capable de... Si, mais si, les hommes
peut-être
aussi.
Peut-être pas tout à fait la même problématique chez les hommes. J'ai l'impression, hein.
Oh, un homme même qui vieillit... Il y avait des... Je sais plus, moi, des chanteurs un peu... pas mièvres, mais... Si, quand même. Si. Hein. Oh, oui, il y en a bon. Eu. Hein.
Non, mais qui regrette de ne plus être...
On sent qu'il y a la beauté qui est partie.
Oui. Ah oui, il y a ça.
Il y a quand même tout ça.
C'est vrai.
Dans mon spectacle...
C'est vrai.
Ouais, ouais,
c'est vrai.
Ouais. Il y a quand même ce côté...
C'est
très...
Mais c'est un homme qui a écrit la chanson.
Eh bien oui,
c'est un homme qui a écrit la chanson.
Eh oui.
Donc il s'est mis vraiment dans la tête des... Il y a des hommes qui sont capables de comprendre les femmes.
Mais c'était incroyable. Toutes les chansons de Piaf, il y avait beaucoup de chansons.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que je me dis, bon, c'est réversible. Comme on dit, hein. Vous avez une gabardine ou un. C'est oui. Réversible. Réversible. À côté,
voilà.
Enfin, en tout cas, c'est ça qui me frappe, c'est que c'est un homme qui a écrit cette chanson.
Et voilà. souvent. Ouais. Souvent, les auteurs, c'était souvent.
Eh bien, il y en a pas mal. Alors, je me disais que. Si vous voulez, peut-être vous pouvez me redire encore un autre texte en live, si vous voulez, ou si, comme vous voulez, hein, ou si vous voulez pas déflorer le spectacle, parce que il faut vous entendre au spectacle aussi.
Allez, je fais le début.
Hein, oui,
bien. Hein, d'accord. Un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève, qui ne veut pas finir. Un souvenir, c'est toute la tendresse des beaux jours d'ivresse que l'on croit retenir. À soir, tu as pu te reprendre, tout briser, tout anéantir. Mais pour moi qui ne sais comprendre qu'on peut mentir, ce souvenir, c'est croire encore que tout vient de recommencer. C'est revoir l'être qu'on adore et retrouver tout le passé. Un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève, qui ne veut pas finir.
Ah, c'est très beau. Hein. Mmh. Alors, je ne sais plus de qui a écrit ça, mais...
C'est la première, une des premières chansons. Je crois que c'est la première chanson.
Ah oui,
toute première.
Ah ben oui, Oreste Rossi.
Voilà.
Mais À la limite, on n'est pas obligé de savoir qui l'a écrit, parce que quand vous l'interprétez, j'ai l'impression que c'est vous qui l'avez écrit.
Et je crois bien, je ne sais plus qui c'est qui chantait ça, mais c'était « Un souvenir, c'est l'image d'un rêve ». Vous voyez, je peux même... je crois que c'est Lucienne Boyer, mais peut-être je me trompe. Mais voilà, c'est tout, je l'avais dans la tête par la chanteuse, moi.
Eh bien, comme quoi,
j'ai pas triché. Hein. Là, vous avez eu, vraiment la base.
Alors, je sais pas, peut-être que vous êtes pressé. Sinon, si vous voulez faire connaissance avec Laurence, on va parler de son livre.
Je peux partir.
Oui, si vous voulez.
Vous m'en voulez pas. Je prends.
Mais non,
le livre.
Si vous prenez le livre, ça.
Et merci beaucoup.
Merci beaucoup. Après le spectacle.
Merci. Je vais partir parce qu'il faut que je
prépare le spectacle. Ouais. Alors, on redit quand même que ça se passe au Théâtre Poche Montparnasse. C'est du mardi au samedi, 21h, et à partir du 31 janvier, le dimanche à 17h.
C'est tout bon.
31 décembre.
31 décembre jusqu'au 14 janvier. Voilà.
Merci. Bien. Je vous enverrai le lien vers le podcast. Hein,
d'accord.
Avec l'attaché de presse. Hein. Merci beaucoup, Myriam.
Merci.
Merci.
Ben voilà.
De la merveilleuse aventure qui un jour a pu nous unir, je garde malgré ma blessure l'ineffaçable souvenir. Un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève qui ne veut pas finir. Un souvenir, c'est toute la tendresse des beaux jours d'ivresse que l'on veut retenir. Un soir tu as pu te reprendre, tout briser, tout anéantir, mais pour moi qui ne sais comprendre qu'on peut mentir. Un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève, qui ne veut pas finir. Ce souvenir, c'est croire encore que tout vient de recommencer, c'est revoir l'être qu'on adore, c'est retrouver tout le passé. Un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève, qui ne veut pas finir. Un souvenir, c'est toute la tendresse des beaux jours d'ivresse que l'on veut retenir. Un soir tu as pu te reprendre, tout briser, tout anéantir, mais pour moi qui ne sais comprendre qu'on peut mentir. Souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève qui ne veut pas finir. Un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure en vrai, qui ne veut pas finir.
Alors, maintenant, on va faire connaissance avec une écrivaine, Laurence Kleinberger, je prononce
oui,
bien, j'espère.
Oui, c'est bien, c'est bien.
Ouais. Alors, il est sympa le livre, parce que la couverture, elle est rigolote. Hein.
Alors, la couverture, je vais faire quand même un petit. C'est Jean-Pierre Joblin qui l'a
fait. Ah, bah oui, on connaît ici.
Bah
oui.
Voilà, Jean-Pierre Joblin qui vient de sortir un album merveilleux sur Gaston Coutet et un spectacle dans lequel votre voisin d'en face joue le rôle de Gaston Coutet. Voilà.
Ah,
Bruno Daraki.
Ah. Bonjour. Bonjour.
Voilà, c'était juste pour vous présenter.
Très bien. Bah oui, mais c'est quelqu'un de la maison qui m'a parlé de toi.
Oui, hein. Oui.
C'est la première fois que je te vois, mais je te tutoie quand même.
Bah oui, voilà, on se tutoie, on a dit.
C'est Pascal Loquin qui m'a parlé de toi. Voilà. Très alors, je m'a parlé, puis je me suis dit, bon, ben, je vais faire connaissance avec son livre. Mmh. Et puis, alors, donc, j'ai lu le livre qui s'intitule Une larme de Rivka.
Oui.
Une histoire d'oubli et de mémoire. Alors, je l'ai lu pratiquement d'une traite. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que justement, je l'ai lu d'une traite de façon très facile.
Oui.
Ce que j'ai bien aimé, c'est que. Moi, je suis incapable de faire ça. Hein. Justement, c'est parce que je suis incapable de le faire. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un témoignage quand même sur la fin de vie de votre mère. Mmh. Mais c'est raconté de façon tellement, naturelle, spontanée. Enfin, il se passe quelque chose quand même qui est grave, mais vous n'appuyez pas quand même sur le. Sur
là où ça fait mal, quoi.
Là, non. Mm. Vous racontez comment vous vous débrouillez pour vivre avec ça. Mais avec votre tempérament, votre caractère, ton caractère, c'est-à-dire quelqu'un qui est assez fantaisiste, certainement, dans le fond.
Oui,
hein. Et le fait d'être assez fantaisiste, d'avoir un regard assez positif sur la vie, d'essayer de trouver ce qu'il y a de beau dans la vie, quoi qu'il arrive.
Oui.
Quoi qu'il arrive, il y a un peu de ça. Hein, quoi qu'il arrive.
Oui, c'est vrai.
Et donc, finalement, quand on ressort de la lecture de ce livre, qui raconte qu'un témoignage sur la fin de vie de quelqu'un, on a la pêche.
Bon, bah, tant mieux.
On a la pêche.
C'était ce que je
voulais. Zut, alors moi, s'il m'arrive un truc comme ça, il va falloir que je fasse comme cette dame, là, comme cette jeune femme.
Bon, très jeune femme.
très jeune femme, oui.
Cet enfant.
C'est vrai, c'est un regard sur les personnes âgées. C'est un regard ni trop gentil, ni trop méchant, c'est-à-dire presque amusé. Enfin, de toute façon, vous avez, tu as de l'humour et donc tu regardes les choses un peu.
Avec un peu de recul.
Avec un peu de recul, ouais. Et le fait de le regarder avec... à un moment donné, il y a un personnage, il s'appelle un monsieur qui pisse tout le temps partout.
Oui.
Bon, je ne sais plus comment.
Oui.
Bon, on pourrait dire, oh, zut alors. Mais vous, la façon dont vous le présentez, bon, ben, ça devient un personnage.
Ben oui.
Et puis voilà, c'est drôle. Moi, je trouve... Enfin, c'est drôle. Ça donne envie de effectivement, de... Quand on se trouve dans des situations qui sont quelque part dramatiques, ça donne envie justement d'essayer d'avoir ce recul, ne serait-ce que pour les personnes qu'on a en face de soi et qui vivent des situations difficiles, ne pas leur envoyer le miroir du
bien
malheur
sûr.
Chaque fois.
Tout à fait.
Faut éviter. Mmh. Faut éviter. Hein. Mmh. Bon, d'accord, vous êtes malheureux, mais on va pas non plus en faire des caisses. Et puis moi, enfin, je dis ça.
Oui, non, mais je vois tout à fait.
J'exagère, mais bon. Alors.
Non, en fait, ils sont malheureux. L'auteur, enfin, moi,
vous
la narratrice est très malheureuse aussi.
Oui, tu es malheureuse, mais tu essaies quand même.
Je me fous un peu de moi-même aussi.
Sinon, on n'a plus qu'à se suicider.
Voilà, c'est ça le truc. C'est ou on se suicide ou alors on arrive à...
on arrive à lever la tête, quoi.
Voilà, c'est ça.
À lever la tête de l'eau.
Oui.
Voilà. Bon, ben, c'est pour ça. Moi, je trouve que c'est... Et puis, c'est écrit de façon très... je ne dis pas facile, hein, parce que j'imagine qu'avoir un texte aussi... qui glisse, quoi, mais qui... Ça se travaille quand même, non?
Oui, oui, j'ai beaucoup travaillé celui-là.
Hein? Vous l'avez travaillé
longtemps,
ça a l'air d'être écrit facilement, mais pour écrire justement de façon aussi limpide, il faut du travail.
Oui, oui, tout à fait.
Ça, on ne le devine pas comme ça, du coup, mais moi je sais, je serais capable. Mais voilà, c'est pour ça que je te félicite.
Je te remercie. Voilà. Mais je voulais dire aussi que ce qui a fait un peu la difficulté. Et en même temps, la passion que j'ai eue pour faire ce livre, c'est que ça m'a ouvert des... Parce que cette histoire d'oubli et de mémoire, et le fait que ça s'appelle Une larme de Rivka, c'est pas n'importe quoi non plus. En fait, le fait que ma mère perde la mémoire, et que mon frère ne parle plus, parce qu'il y a, ça aussi, hein,
oui, dans l'histoire. Oui, c'est double malheur. Et
double malheur, là, carrément.
Lui, il a eu un AVC.
Oui, voilà.
Ta maman a la maladie d'Alzheimer.
Donc, petit à petit, ne parle plus et ne se souvient de rien. Et moi, tout d'un coup, je me dis, mais qui va se souvenir de ce qui s'est passé avant, de son enfance, qui a été quand même particulièrement dramatique? Qui va pouvoir en parler? Comment on va faire ça? Et je tombe sur une lettre. Il y a ça aussi dans l'histoire. Je ne sais pas si tu te souviens. En vidant ses tiroirs, je trouve une boîte sans fer dans laquelle je trouve une lettre que son père a jetée du train qui l'amenait à Auschwitz.
Si, j'en souviens, oui.
Et c'est là que commence tout un travail de recherche de mémoire. Et d'ailleurs, que je suis en train de poursuivre dans un autre bouquin là, Mais bon, y a quand même, pour dire qu'il y a quand même des choses assez dramatiques dans le livre, tout en étant...
Oui, mais justement, arriver à amener ces choses dramatiques sans être dans la douleur, dans la plainte,
oui, non, c'est sûr.
C'est pas évident.
Mais c'est pas vivable.
Surtout qu'il faut le sortir de soi aussi.
Oui, c'est ça.
Déjà, il faut l'extirper de soi.
Il faut l'extirper et puis il faut garder... on peut pas non plus mettre ses tripes sur la table en disant « je suis très malheureuse ». Enfin, voilà.
Il y en a qui le font. Il y a des chanteurs qui l'ont fait. Des humoristes comme Francis Blanche qui l'ont fait.
Oui, c'est vrai.
Ou une histoire de quelqu'un qui a toutes les maladies du monde. Là, j'ai la truc...
Mais en même temps, c'est très drôle.
C'est ça.
On peut le faire en étant très drôle.
Et donc, c'est émouvant. Il y a des passages émouvants. Bon. C'est un livre qu'on peut relire.
D'accord.
Ça fait partie des livres qu'on peut relire sans chialer, quoi. C'est pas le but. Mais en même temps, on a un coin de la mémoire qui dit, tiens, cette dame, elle a vécu ça. Ces gens, ils ont vécu ça.
Voilà.
Et ce que j'aime bien,
une histoire.
Ce que j'aime bien, c'est que ça reste très simple. Moi, l'autre jour, j'ai voyagé dans un train. Et pendant 6 heures, j'ai discuté avec une dame que je ne connaissais pas, ni d'Ève ni d'Adam. Pendant 6 heures.
Ouais.
Je ne la connaissais pas. Elle m'a raconté sa vie. Et moi, je lui ai raconté la mienne pendant 6 heures, pendant le train. Voilà.
C'était intéressant.
C'était intéressant. Et pourtant, je la connaissais.
Maintenant, vous vous connaissez un peu mieux toutes les
deux. Voilà. Et je trouve que ton livre, c'est un peu ça aussi.
D'accord.
Il y a un peu de ça. D'accord. C'est comme si je t'avais rencontré dans un train et tu m'avais parlé.
Je ne sais pas si j'aurais pu en parler pendant 6 heures, mais...
Voilà. Bon. Alors... il y a un extrait que j'avais retenu. C'est marrant. Pourquoi te cacher, tiens. Si tu as envie de le lire.
Alors.
Pourquoi j'ai choisi celui-là, je ne sais pas.
Bref. Alors.
Il faut bien en choisir un. Mais tu peux en choisir un autre.
Oui. Enfin, non, je peux, même s'il y aurait des explications à donner. Bon, pourquoi te cacher. Je me promène dans les couloirs de l'EHPAD. Je suis bien devant le micro là, oui. Avec maman, pour aller dans le salon des 4 saisons, profiter du jukebox. Quand un saint d'esprit a une réflexion très déplacée. Le vieux coq, installé en permanence dans son fauteuil comme sur un perchoir, volatile, déplumé, toujours entouré de poules décrépites et roucoulantes, ose se servir de ma maman pour faire rire la galerie. Haussant bien le ton afin que le public l'entende parfaitement, il la désigne en s'écriant « Tiens, tiens !» Voilà l'unité des gâteux qui débarque. Ma pauvre maman, dont on pourrait penser qu'elle ne comprend pas grand-chose, se sent visée au point de trembler et de bredouiller des excuses sur sa présence malvenue. Je remets sèchement le croulant à sa place, lui conseillant de profiter, parce que bientôt il y sera lui aussi chez les gâteux. C'est juste une question de jour. Je suis très gentille, mais quand on s'attaque, mais on ne s'attaque pas à ma maman. Juste après l'arrestation de ses parents, maman a été baladée, traînée, transbahutée toute une nuit à la recherche d'une famille qui voudrait bien la cacher. Personne ne voulait prendre le risque de sauver cette petite juive. Ma maman n'était à sa place nulle part. Je prends ma mère par le bras et passe crânement devant le vieillard. Sur l'appareil à musique, je programme du Brassens, avec pour commencer, et au volume maximum, Le temps ne fait rien à l'affaire. Je regarde le barbon droit dans les yeux tout le temps que dure la chanson. Il ne sait plus où se mettre et j'espère qu'il fait dans sa culotte. On n'embête pas ma maman. Ma mère, il faut que je la sauve.
Voilà. Mmh. Ah oui, puis il y avait les Brassens, c'est pour ça aussi que j'ai pensé. C'est pour ça que j'ai pensé à ce... Ouais. Alors, oui, tu veux donner des explications ou...
Oui, parce qu'en fait, j'ai ce sentiment dont je parle tout au long du livre, c'est que j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je protège ma mère depuis que je suis petite, qu'elle avait besoin d'être protégée, qu'elle avait quelque chose de fragile. Évidemment, c'était une fragilité qui datait de la guerre et du fait que ses parents ont été déportés, qu'elle a été cachée pendant toute la guerre chez des campagnards et que le retour de la guerre a été très dur, etc. Donc c'est pour ça que je reviens sur cet accueil de ce vieux con, hein, parce qu'il y en a aussi dans les EHPAD des vieux cons, m'a fait penser à ça, au moment où il a fallu, où elle a appris que ses parents avaient été déportés sur dénonciation, et où elle m'avait raconté que la propriétaire de l'immeuble où elle habitait l'amenait comme ça chez des gens toute la nuit en cherchant des gens qui pourraient bien la cacher, et personne n'en voulait parce que c'était trop dangereux. Voilà.
Ah oui, ouais. Oui. Eh ben oui, parce qu'en même temps, c'est toute la mémoire qui reflue.
Mais
aussi.
Voilà, c'est ça.
Il y a aussi un sentiment d'urgence, parce que sachant que ton frère, du fait de l'AVC, sa mémoire, on a encore de la mémoire. Hein.
Oui, sa mémoire est intacte. Et puis depuis, il reparle quand même beaucoup mieux. Et puis on arrive vraiment à communiquer sur ma mère, sur l'enfance de ma mère, sur l'enfance de mon père. Il sait plein de trucs, il a retrouvé plein de photos, plein de textes, enfin bon.
Mais c'est surtout ta mère.
Oui.
C'est vrai qu'on n'y pense jamais, mais quand une personne âgée meurt, eh bien c'est toute une mémoire qui fout le camp.
Mais oui, tout à fait.
On n'y pense pas, ouais. Parce que bon, puis alors, on se dit, ben zut, moi j'y arrive au vieillage. Hein.
Oui. Non, puis on se dit zut aussi, pourquoi je ne l'ai pas enregistré, pourquoi pourquoi je n'ai pas écrit ce qu'elle me racontait, parce qu'il y a plein de choses qu'elle m'a dites et que j'ai enfouies. Je ne sais peut-être pas oublié,
ah ouais,
ça revient, mais...
C'est vrai, parce que quand on est jeune, on est en train de vivre sa vie, on ne peut pas
non plus...
Oui,
c'est sûr, on n'est pas dans ce...
Et malgré tout, on n'y réfléchit jamais, mais... c'est important quand même les personnes qui sont plus âgées que nous ont à nous confier. Et donc, dans ce livre, on sent qu'il y avait toujours ce sentiment qu'il y a quelque chose qui va partir.
Oui,
et
oui.
C'est votre mère, mais c'est aussi votre histoire aussi.
Oui, c'est ça. Ouais. Mon histoire, celle de mes enfants,
on ne le dit pas assez, mais quand il y a une personne qui meurt, il y a une partie de soi qui meurt.
Oui, bien sûr.
Parce que la personne qui meurt, elle emporte, elle emporte des images de nous, et de tout.
Oui.
Et on ne peut pas les récupérer. Ils ont emporté quelque chose de nous. Donc, on fait le deuil de la personne, mais on fait aussi un peu le deuil d'une partie de soi-même.
Tout à fait.
Bon, enfin, on ne va pas pleurnicher.
En tout cas, c'est un livre drôle. Voilà.
C'est un livre très drôle.
Oui.
Vous avez un passage drôle. Tu as un passage drôle à nous communiquer?
Alors, oh là, il faut que je me souvienne. Un passage vraiment drôle. Non, ça ne sera pas l'agonie. Quoique.
Donc, il faut dire, c'est-à-dire le livre, on le trouve, c'est une maison d'édition de province. Hein.
C'est une maison d'édition belge.
Ah, belge !
Oui, c'est les éditions du Basson qui est à Charleroi. Alors, on le trouve à Publico.
Ça, c'est bien.
Et on le trouve on peut le commander dans n'importe quelle librairie parisienne. Et
un truc qui est pas mal, c'est de le commander sur lalibrairie.com. Il arrive très vite, on paye pas de supplément de postaux, etc. Ouais. Lalibrairie.com, c'est un site de libraire, en fait. Et il est disponible, tous mes bouquins.
Alors, une larme de Rivka.
Oui.
Alors, Rivka, explique.
Alors, Rivka, c'était donc la mère de ma mère. Quand ils ont appris qu'il allait y avoir une rafle, ma mère vivait avec ses parents et sa grand-mère. Quand ils ont appris qu'il allait y avoir une rafle, ils ont décidé de tous partir se cacher. Ma grand-mère, Théma, a décidé que non. Elle avait 75 ans. Elle a dit non, moi, je ne bouge pas de mon lit. Ils ne me feront rien. Je bouge pas. Allez-y. Vous reviendrez plus tard, etc. Évidemment, quand les Allemands sont arrivés, parce que là-bas, c'était les nazis qui venaient directement chez les gens, ils n'ont pas trouvé mes grands-parents et ma mère, mais ils ont pris la grand-mère. Et donc, ils l'ont déportée, assassinée à Auschwitz avec les autres. Et quand ma grand-mère Rivka, donc la mère de ma mère, a appris ça, elle a pris ma mère dans ses bras et elle s'est mise à pleurer. Et ma mère m'a raconté qu'elle recevait sur le visage des larmes de sa mère. Voilà. C'est pour ça que j'ai appelé ça une larme de Rivka. Et il y a cette histoire de larmes qui coule à l'infini sur ma mère, sur moi, qui s'arrête pas de couler. Et en même temps, j'ai toujours les yeux qui pleurent. Et c'est vrai, d'ailleurs. J'ai toujours les yeux qui pleurent dans l'histoire. Je dis, oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est comme si cette larme était là en permanence. Voilà.
Oui, je comprends. Et Rivka, c'est le prénom de votre...
De ma grand-mère, de ma grand-mère maternelle. Donc, ma grand-mère et mon grand-père, Yehuda, qui ont été déportés, assassinés à Auschwitz. Oui,
quelque part, c'est un livre aussi qui leur rend hommage.
Tout à fait,
Alors, on va peut-être... Petite pause musicale.
Eh bien, sur le thème d'Alzheimer.
Ah, bon, oui, d'accord.
J'ai la mémoire qui flanche. Tes joies, tes colères.
La lumière, une chanson de Pomme qui me touche beaucoup, alors que pourtant ma mère n'a pas été atteinte, ma grand-mère n'a pas été atteinte. Maman, on va manger ensemble tout à l'heure. Manzane, on va manger ensemble tout à l'heure. Non, c'est pas vrai, ça marche pas. Allez, Radio Libertaire 89,4 MHz.
Alors, j'étais en train de lire Laurence Kleinberger. Ça se prononce Kleinberger, hein?
Ça peut se prononcer Kleinberger, Kleinberger, Kleinberger.
Oui, aussi. Oui. Ah, c'est comme mon propre nom aussi, il se prononce de mille façons. Je vois dans la quatrième page de couverture, hein, c'est ça? Oui. Il est écrit Laurence Kleinberger.
Très bien.
Et maîtresse des soucis dans un centre psychopédagogique. C'est quoi, maîtresse des soucis?
Alors, c'est une plus jolie façon de dire enseignante spécialisée en aide relationnelle. Je travaille dans un centre avec des psychologues, des orthophonistes, des rééducateurs en psychomotricité, des enseignantes spécialisées pédagogiques. Ouais. Et moi, je travaille plutôt avec des enfants qui ont du mal ou qui ont du mal à devenir des élèves, c'est-à-dire à se mettre dans la peau d'un élève, ou qui sont très très angoissés, très inhibés, très excités. Voilà. Et bon, c'est plutôt un travail qui n'a aucun rapport avec les apprentissages scolaires. D'accord. Donc ça me convient très bien.
Parce que, d'accord. Alors, tu n'en es pas à ton premier livre. Tu as écrit aussi « J'ai pas tué Gérard », enfin, je crois.
Oui.
Et le jour où mon Alzheimer... un jeu de mots. échappa aux griffes d'un nazi constipé grâce à un tueur croate à la coiffure étrange. Oh là là.
Et j'en ai écrit un autre qui n'est pas sorti au basson, mais que j'ai, disons, auto-édité, qui s'appelle « Lu dans le taxi ou les bienfaits du curcuma ».
Ah bon?
Voilà. Et là, je suis en train d'en écrire deux autres.
Ah bon?
Oui.
Ah oui, t'as la rage de l'écriture.
Oui, voilà, on peut dire ça.
Ah oui, oui. C'est bien.
Bien. Ça aide.
Oui, c'est sûr. Ah oui, je comprends tout à fait ça. Eh bien, je suis bien contente de t'avoir découvert.
Ben moi aussi, je suis bien contente de vous avoir rencontré toutes les deux et d'avoir été invitée.
C'est
vraiment très très gentil.
J'avoue que c'est Pascal qui m'a parlé de toi et en lisant le livre.
Mais tu aurais pu ne pas l'aimer, tu vois.
Voilà. J'aurais pu ne pas l'aimer. Ouais. Heureusement, je l'ai aimé.
Mais voilà. C'est ça qui est génial.
Une histoire d'oubli et de mémoire, édition du Basson. Alors, on le trouve à la librairie Publico ou alors librairie.com.
Voilà, librairie.com, c'est ce qu'il y a de plus simple. Sinon, on peut aller le commander à sa librairie. En général, il arrive rapidement. Mais la librairie.com, je conseille, c'est plus sûr.
D'accord.
La librairie Publico, c'est sympa.
Ah, ben la librairie Publico, en premier.
145 rue Amelot, 75-011, Paris.
Voilà.
Alors, on va peut-être faire un petit Jean-Marie Blanche, Les vieux chagrins. Une larme à l'œil de Jean-Roger Cossimon.
Ouais.
La larme à l'œil portant le deuil, il y a des chagrins qui font le pied de grue devant ma porte. Chagrins anciens dont je sais bien qu'ils ont des mains en piège à glu des fois que je sorte. Pour mal payer, pour me drailler à l'imparfait, ou souviens-toi à la détresse. Te parodiant, pauvre Lélian, dis, qu'as-tu fait, toi, que voilà de ma jeunesse? Quand le passé s'est bien cassé, tu peux toujours, ma pauvre frangine, chauffer la colle. Je connais la vie, je n'ai plus envie de refaire un tour au cours de spleen de mon école. École du soir, du désespoir, j'y suis passé. Je suis bachelier. J'ai mon diplôme. Et comme la mer, sans être aimé, j'ai fracassé les vieux voiliers et leurs fantômes. On est copains depuis Saint-Germain, dit l'inconnu qui vient à toi et qui m'embrasse. Ah, en ajoutant, ça fait 30 ans qu'on s'était vu. Mais autrefois, t'avais de la classe. Des dents de loup, des cheveux fous quand tu chantais. T'étais le plus beau des libertaires. Oh, t'as changé. Y a du danger à fréquenter Arthur Rimbaud et Baudelaire. Allez, chagrin. Je n'y peux rien. Faut transhumer vers les brouillards de solitude. Tous en troupeau, seuls, sans sa peau. Faut s'assumer, comme le noir, sa négritude. Et la pitié, en amitié ou en amour, ça n'a jamais sauvé personne. Ni cette croix sur cette croix. Mon sang velours, tout ce que j'ai, je te le donne. La larme à l'œil, portant le deuil, les vieux chagrins s'en sont allés au vent d'automne. Jean-Roger Cossimon, merci.
Alors, je voulais vous parler en deux, trois mots, mais ce sera plutôt du... On va écouter deux extraits d'un spectacle qu'on va voir ensemble, Anne.
Oui.
Un pianiste aux 50 doigts. Il s'agit de Georges Siffra.
Pascal Amoyal qui
parlera. Et c'est Pascal Amoyal. On avait vu déjà un spectacle de lui sur Litz. Oui. Et
mais qui parlera de son maître Georges Siffra.
Voilà, il parle de la vie de Georges Siffra. Et il illustre justement, il parle de la vie en jouant des morceaux que jouait Georges Siffra, du Litz, Chopin, Schumann, Schubert, et même des compositions de lui-même, de Pascal Amoyal. Voilà. Et je crois si on peut les écouter. Donc il y a deux extraits, un de la bande-annonce et un tiré du spectacle. Voilà.
L'antéchrist est là, et toutes les marques de la bête sont visibles. Il ment comme il respire, à la croix qui ouvre l'amour, l'oubli de soi et la paix aux quatre horizons. Il oppose sa croix aux quatre potences de crime, de guerre, de haine et d'orgueil. Hitler, Göring, Goebbels et les autres formes de la bête sont prédites. Leur peuple idolâtre est prédit. Tout est prêt pour lâcher sur le genre humain les pestes et les misères dont ils ont déjà fait l'essai en 1914. Le fer qui tombe du ciel, les gaz, l'asphyxie, les plaies d'Égypte, les poisons, le massacre des femmes, des vieillards, des malades et des enfants. Une guerre comme on n'en avait jamais vu. À 18 ans, hongrois, il n'a pas la moindre envie d'aller hurler l'hymne nazi. Mais en 1942, il est mobilisé. Il laisse une femme enceinte à la maison. Je devins un pilote de char.
Thank you. frappe, sa vie est une œuvre. On sentait toute sa souffrance dans sa musique. Sa vie était sa musique était sa vie. J'ai eu le grand privilège de travailler avec lui durant 8 ans et lorsque je suis allé le voir quand j'avais une douzaine d'années.
Fallait vraiment avoir 12 ans pour oser jouer ses improvisations avec Sifra. Mais il m'a écouté, il m'a souri.
Je sentis un écorché vif.
Tu vois, quand j'étais enfant, c'était la misère.
Petit, va nous jouer un petit air. Oui, mais de ma composition alors. Tu as quel âge? J'ai 5 ans.
Il a une sensibilité, c'était magnifique, magnifique.
Un doigté extraordinaire avec des morceaux choisis, Chopin, Liszt.
C'est un grand moment, on est encore dedans, on descend doucement.
C'est un spectacle inouï.
Un obus avait été tiré, la chapelle n'existait plus.
Enthousiasmé par sa façon de raconter l'itinéraire d'un artiste exceptionnel qui a survécu à la violence, à la haine, à la guerre.
La machine va trop vite. Je dois freiner. Il faut que je freine. Il faut que je saute. Il faut que je saute.
Tous les pianistes n'ont que 10 doigts. Ici se produit le pianiste. Aux 50 doigts.
De pianisme aussi d'acteur tout simplement unique.
C'est lui le pianiste aux 50 doigts, c'est lui.
Voilà. Alors, le spectacle, il se donne au Théâtre Montparnasse, au 31 rue de la Gaîté, dans le 14e à Paris. Alors, ce soir, à 20h, et le 28, c'était du jeudi à dimanche prochain, à 20h, et le 30, le samedi, il y a une représentation à 17h et à 20h. Voilà. Ça vaut le coup. Pour l'instant, là, ce sont les dernières de l'année. Voilà. Donc, je recommande aux mélomanes, hein, ceux qui ont envie d'entendre parler de Georges Sifra, qui a un parcours assez étonnant, assez lourd, un très très grand pianiste. C'est un spectacle qui vaut vraiment le coup. On va y aller. Alors, je suis désolée, Anne, tu feras, c'est promis, c'est juré, le 30 décembre. La programmation théâtrale. Oui. Chaque fois que je te loupe.
Oui, je sais bien. Alors, en attendant, emmenez vos enfants au théâtre. En ce moment, c'est les vacances scolaires. Et il y a les théâtres qui font des spectacles très chouettes à 15h pour les gamins. Alors, profitez-en.
En ce moment?
Oui, oui.
Et où?
Il y en a à Bobino, à Héberto, au Lucernaire. Il faut aller sur les sites des théâtres qui ne sont pas trop loin des personnes aussi.
Ah ouais, d'accord.
Il y a la Gaîté Montparnasse aussi, je crois, aussi.
Oui, d'accord.
Voilà, voilà. Donc,
Oh oui, il y a quelques spectacles.
Oui, pour les enfants, ça peut
oui, occuper les gamins. Oui, puis des spectacles familiaux aussi. Voilà. Il y a Les Téméraires aussi, à la Comédie oui. Bastille, je crois. Oui, c'est sur Zola et
Dreyfus,
et Méliès, sur l'affaire Dreyfus. Voilà. Ouais, en ce moment, ouais. Bon, eh ben, écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes.
Bonne fête.
Et à la semaine
à
prochaine.
T'as bien capté Bulnois, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, sur Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h.
Baby.
Ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Joe Libertaire.
T'as bien capté Bulle Noire. Dur Libertaire. Radio Libertaire. On va parler de Paula. Dur Libertaire. Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4 heures.
Baby.
Faut pas te tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Bien capté, Bulle Noire. Sur Libertaire.
Radio Libertaire.
On va parler de Paula. Sur Libertaire. Radio Libertaire.
On parle de 38, de calibre 44.
Baby.
Mais bien sûr, tu es sur 89.4.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire sur 89.4.
Bonjour à tous, et bien ce Bulle Noire, et bien on va l'orienter vers un sujet fort, n'est-ce pas, de fin d'année. C'est d'une certaine façon de HBO à Netflix. Comment on est passé du troisième âge d'or de la série télévisée avec les productions HBO jusqu'à aujourd'hui, les séries spéciales plateforme. Et entre autres Netflix, qui domine le marché. Vous allez peut-être me contredire, les amis, mais je vais d'abord vous présenter aux auditeurs de Radio Libertaire. Nous avons en plateau, en direct, Mathieu Letourneux. Salut Mathieu.
Bonjour.
Bon, toi, les auditeurs de Bulle Noire te connaissent, t'es déjà venu maintes fois. Nous avons parlé de Zygomar, de Fantomas, du polar européen, on a abordé beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Que des choses de qualité. Également avec nous Jean-Marie Nizan, qui est aussi un habitué d'une certaine façon. On parle de polar, ouais, et on parle de films polar et également de séries. Jean-Marie Nizan qui est réalisateur, auteur-réalisateur, Mathieu Letourneux qui est auteur de tout un tas de bouquins sur les débuts du cinéma mondial d'ailleurs, les séries.